que tout finisse, pour elle, pour lui? Est-ce qu'elle lui en veut aussi de se laisser couler, de l'entraîner avec lui? À moins que ce soit elle qui coule et entraîne son fils avec elle. Est-ce qu'elle lui en veut, à lui, de ce qui n'arrive qu'à elle? Faut-il que son fils soit comme son père, et qu'il la considère si peu, pour qu'elle en soit là, pitoyable, honteuse d'elle-même et sans perspective, sans avenir, en pleine nuit, dévastée, la main crispée sur le nœud de la ceinture de sa robe de chambre, meurtrie et si seule? Elle se dit qu'elle va appeler les hôpitaux, ou les pompiers, pas encore la police. Elle reprend le téléphone, le regarde. Regarde encore le cadran de la pendule. Non, la réponse n'est pas écrite sur les aiguilles de cette vieille horloge Ikea qu'elle se traîne depuis des années. Alors il faut attendre. Elle doit se raisonner, ne plus sursauter au moindre bruit dans la rue, dans l'escalier, dans le couloir. Et soudain, elle repense à ce professeur de maths qui la terrorisait quand elle était gosse. Pourquoi elle repense à ça? Sa blouse bleue fermée sur un ventre proéminent, son teint rouge, ses cheveux courts très blancs et sa voix doucereuse, l'odeur de craie, du fioul dans la petite salle de classe préfabriquée, l'odeur du plancher, la sueur de bois, et sa terreur à elle devant le tableau noir. Non, mademoiselle, la réponse n'est pas écrite sur le tableau. Alors quand le téléphone sonne, c'est comme si tout dans l'appartement, dans l'immeuble même, se mettait à craquer. Sibyl est recroquevillée dans le vieux fauteuil club près de la fenêtre. Elle se réveille en sursaut. Oui, elle a dormi, c'est comme ça qu'elle en prend conscience, dans la violence du sursaut. Elle se redresse et se jette sur son téléphone. Elle reste sidérée, les larmes aux yeux. Elle laisse retomber le téléphone sur la table. Elle ne sait pas au fond si elle est en colère ou rassurée de savoir Samuel vivant et en bonne santé. Si elle aurait préféré qu'il se soit cassé un bras pour lui apprendre à risquer sa vie ou celle des autres. Et elle rumine quelques heures, sans plus prêter attention aux fêtards qui passent encore à côté de sa rue, les couchetards qui rentrent dans l'immeuble. C'est comme si elle n'entendait rien. Maintenant, elle sait qu'il ne viendra pas tout de suite. Elle devra aller le chercher à la gendarmerie de Lacanau, dès le matin. Comment il s'est retrouvé là? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle prend une douche. Elle sait que ce n'est même pas la peine d'essayer de dormir. Le bruit de l'eau semble très fort. L'eau la blesse. Les petits plocs sont comme des pointes sur sa peau. Mais la chaleur lui fait du bien. L'eau brûlante gifle et secoue. Elle ferme les yeux. Comment imaginer son fils dans une cellule, elle qui ne sait même pas à quoi ça ressemble? Lorsque Sibyl arrive à Lacanau, elle reste longtemps avant de sortir de sa voiture. Elle regarde sa montre. Il est encore tôt. Elle décide d'aller jusqu'à la mer. Elle veut regarder la brume qui flotte sur l'horizon. Ce ciel brouillé où des lambeaux de rose et de bleu se dilatent autour d'un soleil blanc, vaporeux, sans forme bien dessinée. Elle regarde ça en fumant. Le froid la saisit, et elle ne sait pas si cette sensation est bonne ou mauvaise. Peu importe, le froid l'électrise. Elle regarde les vagues et l'écume molle et irisée qui s'abat sur l'estran. Sibyl laisse ses yeux flotter sur ce spectacle auquel elle aimerait demander davantage qu'un simple réconfort, un peu d'oubli peut-être, de sérénité, la capacité à rassembler son esprit et ses forces, son intelligence, toutes ces capacités qu'elle a eues il y a si longtemps et qui lui semblent perdues, comme si aujourd'hui plus rien n'arrivait à se mobiliser et à se ressaisir en elle. Elle essaie d'étouffer un sanglot qui la prend en traître, une bouffée qui remonte elle ne sait pas où. Elle jette son mégot et, sans prendre le temps de l'écraser, elle quitte la plage trop froide et retourne dans sa voiture. Elle prend son téléphone et compose un numéro. Elle reprend son souffle, retient sa respiration pendant que la tonalité résonne à son oreille, puis une voix et un bip. Benoît, je ne t'ai rien demandé depuis qu'on est parti, mais maintenant il faut que tu viennes. Il faut aider Samuel. Il a besoin de nous. On ne peut pas ne rien faire. Même si elle n'a pas voulu voir, elle sait que ce soir il vient de se passer quelque chose. On ne peut plus laisser Samuel. Maintenant, il faut qu'ils comprennent ensemble ce qui s'est passé. Comment depuis des mois il s'est détruit. Comment ils l'ont détruit à force d'indifférence ou d'aveuglement. Car ils ont été aveugles à tout ce qui n'était pas leur guerre, à tout ce qui n'était pas eux. Et chacun a été responsable de ce qui arrive ce matin. Samuel a été leur victime collatérale, et pas une seule fois il ne s'est plaint de ce qu'il a entendu. Les cris, les reproches,